Combattante, combative, histoire, politique, intime, universelle. Des portraits de femmes qui ont marqué l'histoire. Une série radiophonique avec la classe PEM du collège Victor Hugo.
GTFM, bonjour. Nous accueillons aujourd'hui Inès Leroux. Premièrement, pourriez-vous vous présenter aux auditeurs ?
J'ai fait mes études à l'université Panthéon-Sorbonne. Je suis également passé par l'école nationale supérieure Louis Lumière et la Fémis. Après mes études, j'ai réalisé un film intitulé « Je ne suis pas mort ». J'ai aussi contribué à des documentaires sur Arte, France Culture, et des reportages audio comme « Les rencontres intersexes » et « Mauricio, le lanceur d'alerte auprès des abattoirs de Limoges ». En 2016, j'ai commencé mes recherches sur les algues vertes qui impactent la Bretagne depuis 1971.
Bonjour, je suis journaliste et je fais des reportages sur la Bretagne. Je vous appelle au sujet des algues vertes.
Et c'est à cause de l'agriculture, c'est ça ?
C'est ce que je voudrais savoir.
Elles arrivent par les marées et les courants et se multiplient à cause de l'azote.
Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler sur les algues vertes ?
Ce qui m'intéressait, c'était la question de la santé des agriculteurs. Et des ouvriers agricoles exposés aux pesticides, c'est un combat personnel que je mène grâce à ma mère qui était chimico-sensible. Maintenant, elle ne peut plus utiliser de savon ou de liquide vaisselle. Pendant plus de 10 ans, elle n'a pas pu être diagnostiquée. C'est ce sentiment d'injustice qui m'a poussée à enquêter. Quand j'ai commencé à travailler en Bretagne, le sujet des algues vertes m'est apparu comme une occasion idéale pour parler de ce système.
Quels sont les effets des algues vertes ? Sont-elles nocives pour l'humain et les êtres vivants en général ? Si oui, pourquoi ?
Lorsqu'elles sont en mer, les algues vertes ne présentent aucun danger. Le problème, c'est quand elles sont sur les plages. Elles produisent des gaz dangereux quand elles se décomposent au soleil. C'est de l'hydrogène sulfurique. Toutes ces algues vertes ne représentent aucun danger pour les plantes, tandis que pour l'homme et les animaux, ça peut représenter un risque de santé. C'est pour cette raison que dans certaines régions, notamment en Bretagne, toutes les algues vertes sont ramassées sur les plages. Dans la bande dessinée adaptée de mon enquête, on peut voir un sanglier mort, entouré d'algues vertes, dégageant une sorte de fumée, ainsi qu'un jogger allongé dans un tas d'algues vertes. Par la suite, à l'hôpital de Lannion, les médecins ont découvert que le jogger était mort à cause d'un gaz. Vu que le jogger est mort sur le tas d'algues, les scientifiques ont fait des recherches pour ensuite trouver que ce gaz provient des algues vertes.
Pourquoi cette histoire est-elle considérée comme une histoire interdite en Bretagne ?
Cette histoire est considérée comme taboue car les politiques bretons veulent étouffer l'affaire pour ne pas nuire au tourisme qui rapporte énormément aux villes côtières de Bretagne. Depuis 1989, les paysans bretons ont retrouvé 3 morts sur les plages de Côte d'Armor. Tous ces morts sont en réalité causés par l'élevage industriel des paysans bretons.
Êtes-vous satisfaite de l'adaptation de votre bande dessinée en film ? Pouvez-vous le présenter aux auditeurs ?
Oui, j'étais la conseillère technique du tournage, ce qui veut dire que c'est moi qui ai pu organiser le film comme je le voulais. Avec l'aide de Pierre Jolivet, le film met en scène une jeune journaliste qui, animée par une conscience écologique, décide d'aller s'installer en Bretagne pour enquêter sur le phénomène des algues vertes. Le film « Les algues vertes » a été tourné en 2022 dans les Côtes d'Armor, autour de Saint-Brieuc et dans les Finistères. De nombreux techniciens, comédiens et prestataires bretons se sont investis sur le film, comme Comacle ou Mailleux.
Vous voulez bien me raconter ce qui s'est passé ?
Ouais. D'après ce qu'on sait, Thierry a quitté l'entreprise vers 8h.
Il va charrier des tonnes de boues d'algues vertes en putréfaction, dégageant de l'H2S, l'un des gaz les plus dangereux du monde.
Dans le film des algues vertes, il est précisé que vous êtes considérée comme la femme à abattre. Pourriez-vous nous en dire un peu plus ?
Je suis désignée ainsi car c'est un sujet que les politiques de Bretagne ne voulaient pas que je dévoile au grand public, par crainte de faire chuter le nombre de touristes dans cette région. C'est pour cela qu'au cours de mes recherches, j'ai subi de nombreuses pressions. Encore aujourd'hui, j'ai des problèmes de surveillance téléphonique et informatique et ma boîte mail est saturée de messages d'insultes. Durant mon investigation, les amis qui m'hébergeaient ont reçu des lettres de menaces me visant dans leur propre boîte aux lettres. Ça m'a énormément impacté. J'étais harcelé en permanence et je me sentais en sécurité nulle part.
À votre avis, qu'est-ce qui pourrait améliorer la situation ? Les politiques ont-ils réagi depuis la sortie de votre bande dessinée ?
À mon avis, ce qui pourrait améliorer la situation, ce serait le fait d'interdire les pesticides, dont la nitrate, permettant la prolifération des algues vertes, car c'est vraiment un désastre environnemental breton. Il faudrait aussi mettre plus en lumière le milieu industriel et pharmaceutique, et le milieu agroalimentaire qui est très opaque. Il faut aussi interdire le rejet de nitrates et autres produits chimiques dans la nature.
Merci à Inès et Leroux d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés durant ce laps de temps.
Merci de m'avoir accueilli et au revoir.
C'était un épisode réalisé par Émile, Antonin, Gabriel et Justin.
Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, une interview exclusive d'Anne Beaumanoir. Résistant. Quitter ces hommes et ces femmes qui ont décidé d'agir face à l'armée allemande lorsque la France a sombré dans l'occupation, cette armée des ombres a rassemblé des individus de tout horizon, recrutés en fonction de leur capacité à intervenir efficacement, mais aussi à échapper au repérage, filature, arrestation et torture, sans dévoiler d'informations à la Gestapo. De nombreux résistants ont été célébrés par la postérité, mais la place des femmes dans ce combat a été longtemps minorée. C'est pourquoi nous vous proposons la rediffusion d'une interview d'Anne Beaumanoir, qui, peu de temps avant sa mort, le 4 mars 2022, nous avait accordé un entretien pour nous raconter sa vie mouvementée.
Bonjour Madame Beaumanoir. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je suis née le 30 octobre 1923 à Créant, dans les Côtes d'Armor. Durant ma vie, j'ai mené une carrière de neurobiologiste, mais ce qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est le jour où je me suis engagée dans la résistance à l'âge de 17 ans.
Justement, nous vous accueillons aujourd'hui pour évoquer votre rôle dans la résistance. Pouvez-vous nous expliquer comment tout cela a commencé ?
J'ai d'abord fait de la résistance pendant les vacances car je suivais des cours au lycée. Au tout début, je ne faisais que de petites évasions et je réceptionnais des colis la nuit. Puis, en 1948, j'ai dû me rendre à Rennes pour étudier la médecine. Malgré tout, je continue à dessiner et à taguer les murs de la ville.
Avez-vous un souvenir particulièrement marquant à nous raconter sur cette période ?
En 1944, je me suis rendue chez une famille juive, les Lysoprawski, pour les convaincre de partir avec moi, mais seuls Daniel et Simone, les deux enfants de la famille, ont accepté de me suivre. Je les ai ensuite cachés dans un logement où se logeaient de nombreux membres de la résistance. La Gestapo, la police secrète d'État allemande, a ensuite découvert le logement lorsque j'étais à Paris et a arrêté tout le monde sauf le chef qui a réussi à s'enfuir avec Simone et Daniel.
Avez-vous eu des nouvelles des enfants après ?
Après les avoir récupérés, j'ai décidé de cacher les deux enfants chez mes parents en Bretagne. C'est ce qui m'a valu en 1996, le prix de Juste parmi les nations, un titre qui désigne les non-juifs qui ont risqué leur vie pour soustraire des juifs aux persécutions des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et ensuite, comment avez-vous poursuivi dans la résistance ?
J'ai continué à résister à Lyon et à Marseille. J'ai d'ailleurs participé à la libération de la cité phocéenne le 29 août, soit plus d'un mois avant ce qui était prévu par le gouvernement allié. Et au cours de cette libération, il y a eu entre 1400 et 1800 victimes. Beaucoup de mes compagnons de la résistance ont trouvé la mort dans leur engagement. J'avais même un peu honte d'être encore en vie.
Nous savons que vous avez également combattu pour l'indépendance de l'Algérie. Que s'est-il passé là-bas ?
En effet, lorsque j'avais 32 ans, pendant la guerre d'Algérie, j'ai lutté aux côtés des Algériens. J'ai pris part au Front de Libération Nationale Algérien. Malheureusement, j'ai été arrêtée et condamnée à 10 ans de prison. Je me suis échappée grâce à un subterfuge de santé et me suis enfuie pour rejoindre la Tunisie. En Tunisie, un colis piégé qui arrivait de Toulouse m'était destiné mais a été désamorcé à temps.
Cela a dû beaucoup vous marquer. Êtes-vous restée là-bas suite à cela ?
Non, en 1958, je suis retournée en France pour transporter des armes et des fonds qui ont servi à financer le Front de Libération Nationale Algérien à Marseille et à Paris.
Nous savons que votre nom de résistance était Annette, mais en avez-vous d'autres ?
C'est vrai que mon nom principal était Annette, mais au cours de ma vie, on m'a appelée Odile et la presse me surnommait la Doctoresse Rouge, car je me suis engagée clandestinement avec le Parti communiste pendant la Seconde Guerre mondiale.
C'est très intéressant. Et que faites-vous aujourd'hui ?
Je me rends dans des établissements scolaires et je fais des interviews pour témoigner sur le déroulement de ma vie et transmettre aux plus jeunes.
Eh bien, merci beaucoup Madame Beaumanoir de nous avoir accordé ce moment.
Merci à vous de m'avoir invitée.
Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cette interview. Nous espérons que cela vous aura aidé à en apprendre davantage sur ce pan de notre histoire.
C'était un épisode réalisé par Maëlys, Garance, William et Margot. Vous pourrez retrouver cette série radiophonique sur le site castopod.jtfm.fr. C'était une production issue du laboratoire sonore de Jet. Retrouvez tous les podcasts de nos projets au www.sonolab.fr.